20h, 21h, France Info, les informés.
Guillaume Caour.
Jusqu'à 21h, les informés, bienvenue et bonsoir à tous. Aretha Franklin est donc décédée. Comment a-t-elle façonné l'Amérique ? Comme le dit Barack Obama dans son hommage, nous allons en débattre dans un instant. Cela fait 3 mois qu'Air France n'a plus de patron et c'est en catimini que le nouveau est nommé en ce moment même au cours d'un conseil d'administration. Il faut dire que les syndicats ont déjà annoncé qu'ils allaient lui réserver un parfait accueil à leur manière parce qu'il n'est pas français. Ben Smith a fait sa carrière à Air Canada. Pourra-t-il sauver Air France ? Sommes-nous en France en train de préparer des catastrophes comme celle de Gênes ? Selon un rapport officiel, nous devrions dépenser 7 fois plus pour l'entretien de nos ponts. Alors l'idée de l'écotaxe refait surface. Nous allons en débattre ce soir avec nos informés. Et je vois Anthony Bélanger qui fait déjà nom de la tête. Bonsoir Anthony.
Bonsoir.
Journaliste et chroniqueur à France Inter. Sophie Fay, bonsoir. Chef bonsoir. Du service éco de l'Obs. Emmanuel Pierrat qui est avocat et président du Pen Club.
Bonsoir.
Et Nicolas Castex, consultant chez Everybody Knows.
Bonsoir.
Bonsoir à tous les quatre. Alors devinez avec quoi nous allons commencer.
Aretha Franklin, ça me paraît.
Bravo, respect. Spontanément, Aretha Franklin qui décède, ça évoque quoi pour vous ? Anthony Bélanger, bon, vous qui voulez parler, je sens, mais vous,
c'est pas que ça me fait chaud ni froid, je comprends que ça puisse toucher beaucoup de monde, sauf que moi, je fais partie d'une tribu un peu particulière qu'on appelle les amusicaux, c'est-à-dire des gens qui n'écoutent pas de musique du tout, qui ne vont jamais au concert et qui n'aiment pas ça.
Donc, soir, Aretha Franklin ou
D'abord, je suis pas seul, je sais que c'est très compliqué à avouer parce que la musique est le bien culturel le mieux partagé en France et dans le monde, que tout le monde écoute de la musique et qu'il y a énormément de gens qui comprennent pas qu'on puisse pas écouter de la musique. Mais c'est un bien culturel parmi d'autres, j'ai une passion folle pour la littérature, pour les livres. J'ai fait même des études d'histoire de l'art, c'est dire que je suis pas coupable entièrement, mais la musique, non, c'est pas mon truc.
Emmanuel Pierrat ?
Oh, c'est une histoire de l'Amérique, peut-être, parce que si... Moi, la musique, évidemment, le talent immense, mais c'est aussi l'enterrement de Martin Luther King, c'est les investitures de Bill Clinton, c'est celle, évidemment, de Barack Obama. Donc, c'est
Bill
une lecture.
Clinton, on en parle moins.
Oui, mais c'est l'investiture de Bill Clinton également. Et donc, c'est pas uniquement, l'élection de président noir, c'est aussi, on va dire, l'Amérique démocrate.
Même si Clinton était presque noir, hein. C'est comme ça qu'il se caractérise à lui-même.
Voilà. Mais c'est ça, c'est les droits civiques, évidemment. C'est aussi peut-être
c'est plus que de la musique.
C'est plus que de la musique, c'est les épreuves de la vie. C'est être mère à 14 ans, c'est perdre une grande partie de sa famille, c'est avoir un mari violent et alcoolique qu'on finit par quitter. Voilà, c'est aussi ça.
Oui, parce qu'en effet, vous le soulignez, elle a perdu sa mère à 10 ans, elle a accouché de son premier fils à 13 ans, du deuxième à 15 ans, elle les a élevés seuls. Ces deux mariages sont des échecs. Son père a été tué par un cambrioleur en 1979. Quelle vie quand même, quelle vie personnelle. Nicolas Castex ?
On aurait pu parler des 60 ans de Madonna, et justement, Aretha Franklin, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de plus authentique, à mon avis. Donc c'est ça aussi qu'on peut saluer ce soir. C'est quelqu'un qui s'est engagé, on l'a dit. Madonna, c'est un personnage plus marketing, on va dire. Donc je trouve qu'il y a deux mondes là, et je trouve que ce monde ancien de Aretha Franklin est à saluer à bien des égards.
Alors je voudrais qu'on écoute Bertrand Dical, notre journaliste sur France 1. Info spécialiste de la musique. Voici lui ce qu'il retient d'Aretha Franklin.
C'est à la fois une immense légende de la soul, ça on l'a dit, du show business. C'est aussi beaucoup plus large que ça. Pour les Américains, on n'en a pas forcément conscience, nous ici en France. C'était à la fois un très très grand personnage de la vie spirituelle des Américains, puisqu'elle était une des grandes voix du baptisme américain, qui est une des dénominations principales du protestantisme américain. Et elle était aussi un role model, comme disent les Américains. Elle était vraiment un exemple pour des milliers d'artistes, pour des milliers de femmes aux États-Unis. Une femme qui montrait à quel point être une femme était un combat. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day.
Sophie Fay, vous avez entendu comment à l'instant Bertrand Dical termine. Elle prouvait aussi à quel point c'était difficile d'être femme.
Oui.
Vous en pensez quoi, vous, en tant que femme?
Elle a quand même, ses chansons représentent plusieurs hymnes féministes, plusieurs déclarations féministes. Bon, aujourd'hui, les jeunes femmes le ressentent peut-être pas comme ça. Mm-hmm. Aujourd'hui, ce qu'on retient surtout d'Aretha Franklin, c'est qu'il y a au moins 7 pubs qui sont réalisées avec ses chansons. Donc même les amusicaux la connaissent, même les jeunes la connaissent, puisqu'ils l'entendent sans cesse à chaque fois qu'ils allument la radio ou la télé. Et effectivement, après Me Too, c'est une femme qui s'est pas laissée faire, qui a toujours revendiqué son féminisme et toujours dit dans ses chansons ce qu'elle avait à dire aux hommes.
Anthony Bélanger. J'ai ajouté que amusical, ça ne veut pas dire ne pas connaître. Ça ne veut pas dire non plus ne pas reconnaître le talent de quelqu'un. Ça veut dire simplement que la musique ne fait pas partie du quotidien. Mitterrand était amusical. Monroy était amusical.
Vous, en tant qu'amusical, là, quand vous entendez cette musique, ça ne vous fait rien?
Mais non, mais moi, il y a des chansons d'Aretha Franklin, puis vous en passez, puis je sais qu'elles ont existé, puis je sais que je les ai écoutées, puis je sais que je les aime a priori. En plus, la chanson est un associé particulier, c'est pas tout à fait la musique comme les autres. C'est de la musique à texte. Donc, il peut m'arriver de chantonner des chansons, y compris d'en écouter, mais généralement c'est des trucs que personne n'écoute, genre des chanteuses de Rebetiko des années 50, parce qu'en fait la musique n'a pas pour moi de logique, elle a juste pour moi une logique d'écoute.
Alors voilà pour notre hommage désinformé à Aretha Franklin, et nous allons poursuivre dans quelques instants les informés avec une information qui vient de tomber et que justement va vous détailler Augustin Arrivé, puisqu'il est 20h10. Toute l'info, Augustin Arrivé.
Le groupe Air France KLM réunissait son conseil d'administration ce soir pour désigner un nouveau président. Ce sera Benjamin Smith, numéro 2 d'Air Canada. Il avait la confiance du gouvernement, pas de l'intersyndicale qui souhaitait un PDG français. Il prendra ses fonctions avant la fin du mois de septembre. La disparition d'Aretha Franklin, elle avait aidé à définir la mentalité des États-Unis, selon Barack Obama. La chanteuse avait participé à sa cérémonie d'investiture. Respect, think I say a little prayer. Elle était surnommée la reine de la soul, 76 ans. La rappeuse Missy Elliott la remercie sur Twitter pour avoir offert au monde une musique éternelle et légendaire. La Maison-Blanche menace la Turquie d'alourdir encore les sanctions économiques américaines. Washington réclame la libération d'un pasteur américain arrêté en 2016 en Turquie. Il est depuis assigné à résidence sur des accusations d'espionnage et de terrorisme. De précédentes sanctions la semaine dernière avaient fait s'effondrer le cours de la livre turque face au dollar. La Coupe Davis ne s'étalera plus sur une année, mais elle réunira toutes les équipes sur une même semaine, décision controversée de la Fédération internationale de tennis. Avec des manches raccourcies, 2 victoires suffiront pour accéder au tour suivant contre 3 aujourd'hui. Et puis une nouvelle recrue pour le PSG, le club de football parisien dépense 37 millions d'euros pour le défenseur allemand Thilo Kehrer. Il jouait dans l'équipe de Schalke 04.
France Info. 20h, 21h, les informés. Guillaume Caour.
Les informés ce soir, Sophie Fay, Emmanuel Pierrat, Anthony Bélanger et Nicolas Castex. Ça y est donc, le nouveau patron d'Air France est connu, il s'agit de Benjamin Smith. C'est l'ancien numéro 2 de Air Canada, où il a fait quasiment toute sa carrière. Alors, en attendant sa nomination, le nouveau patron était déjà accueilli avec le goudron et les plumes. Welcome chez Air France, puisque les syndicats disaient qu'ils ne concevaient pas qu'un patron d'Air France puisse être étranger. À vous lever les yeux au ciel, bon, oui, Anthony Bélanger.
C'est absolument n'importe quoi. Enfin, je veux dire, surtout quand on a un groupe comme Air France qui a intégré il y a quelques années de ça, et avec, en promettant que c'était à égalité, un autre groupe comme KLM, ça va rendre les Néerlandais furieux. Ils sont déjà vent debout contre cette grève qui a eu lieu il y a un mois et demi.
Plus que ça, vous avez raison.
Ouais. Et qui s'est en fait focalisé sur aussi un autre président. Donc en fait, si je comprends bien la logique des syndicats, on vire un président français et on se plaint qu'un président qui ne soit pas français soit là. En plus, c'est intenable comme argumentation. Intenable, enfin, je veux dire.
Et puis, très souvent, les syndicats se sont plaints d'avoir des patrons qui étaient des énarques, qui n'y connaissaient
des fonctionnaires à l'aérien,
qui étaient là pour 3 ans pour finir leur carrière.
Mais là, vous voyez bien comme cette argumentation d'un patron étranger est totalement stupide. Enfin, voyons, Air France est déjà une compagnie internationale. Une compagnie qui, en plus, intègre, pour encore une fois, je le rappelle, pour moitié, ou pour KLM, qui est une compagnie irlandaise elle-même, qui est la seule partie de Air France qui gagne de l'argent. Et qui, en plus, le business model des grandes compagnies aériennes aujourd'hui, c'est justement l'internationalisation, voire l'internationalisation du low cost. Donc, si vous n'avez pas un patron capable d'une part d'accepter le challenge, parce que diriger Air France, c'est aussi d'abord un, il faut en rabattre sur son salaire, même si là il a été triplé visiblement. Ouais. Deux, il faut voir aussi comment les syndicats, quel que soit l'argument, accueillent de toute façon les nouveaux patrons. Et en plus sur cet argument-là, c'est intenable.
Sophie Fay, chef du service éco de l'Obs.
C'est pour ça que du point de vue des syndicats, l'argument n'est pas intenable. Ce qu'ils craignent, c'est que Ben Smith donne priorité à KLM s'il n'est pas content d'Air France. C'est-à-dire que la grande question un des enjeux stratégiques de l'entreprise, c'est où...
C'est l'équilibre entre Air France et KLM,
Oui, et où on fait passer, où on fait transiter les passagers. Est-ce qu'on va plus, est-ce qu'on développe plus Amsterdam comme grand hub ou est-ce qu'on développe plus Paris? Et donc, si à un moment donné, il n'est pas satisfait des Français, il peut aussi...
Ils disent aussi que c'est le candidat de Delta qui est actionnaire à hauteur de 9% d'Air France.
Ce qui est certain, c'est que les actionnaires étrangers d'Air France en avaient plus qu'assez de ce marégot franco-français. Ils seraient assez contents que l'État français sorte complètement du capital et que ce soit une entreprise normalisée, gérée avec des relations sociales normales. Et donc
par ailleurs, imaginez ce qu'on aurait dit alors qu'il y a d'autres entreprises françaises comme ça qui sont alliées à des grands groupes étrangers. Je pense à Renault, Nissan, Mitsubishi. Imaginez,
il y a cinq entreprises du CAC 40.
Imaginez ce que si les syndicats étaient venus en disant Carlos Ghosn, il n'est pas vraiment français celui-là, il a un petit côté libanais, un petit côté brésilien. Ça nous va pas. Et puis alors peut-être que je rappelle que c'est en partie Nissan qui a sauvé l'entreprise Renault au moment de la crise, c'est-à-dire au moment où Renault perdait énormément de pouvoir de part de marché, et qui aujourd'hui l'équilibre est un petit peu rétabli parce que Renault se remet à gagner de l'argent. Mais vous imaginez un petit peu ce genre d'argument avec Renault. Je comprends très bien
Carlos
ce que vous voulez dire.
Carlos Ghosn venait de Renault.
Oui, je comprends très bien ce que vous voulez dire.
Aurait pu venir d'Air France.
Vous voyez, même chose sur Peugeot. Est-ce qu'on interroge la nationalité ou l'origine de Carlos Tavares.
Si demain le patron de Peugeot était chinois, on interrogerait sa nationalité.
Écoutez,
mais là,
les arguments,
c'est le point de vue des syndicats.
De Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, qui détient donc par le biais de l'État 14% du capital d'Air France. Voici donc son argument.
Voilà. Oui. Nous avons défini une feuille de poste. Il y avait d'abord la bonne connaissance du secteur aérien. Nous voulions avoir une personnalité qui avait la connaissance de la compétition internationale. Et nous voulions avoir une personnalité qui ait déjà fait ses preuves dans une grande compagnie aérienne. Et bien, la personnalité qui est envisagée aujourd'hui pour prendre la direction d'Air France, elle remplit ces trois conditions que j'avais posées il y a maintenant plusieurs mois. Et je peux vous dire que le représentant de l'État votera en faveur de cette nomination.
La feuille de poste, comme dit Bruno Le Maire. Nicolas Castex.
C'est un sujet super sérieux. Air France, j'ai regardé les chiffres cet après-midi, c'est 100 000 salariés. C'est l'une des plus grandes compagnies dans le monde.
100 000
On oublie au total, en comptant KLM et les filiales.
Ouais.
Peut-être que je me trompe sur le chiffre exact.
J'ai
regardé Wikipédia, mais c'est l'une des plus grandes compagnies dans le monde, encore et toujours en termes de trafic, pas en termes de reconnaissance par ses utilisateurs. Donc on a affaire à un sujet sérieux et on voit face à ça qu'il y a effectivement des syndicats qui sont encore très sensibles sur la question sociale et qui font payer un petit peu à la fois au gouvernement et puis à la gouvernance d'Air France un passé complexe. Mais il faut absolument qu'ils gardent raison et qu'on ait un débat sérieux sur ce sujet parce que c'est un impact économique massif pour l'Europe, pour la France et l'Europe en particulier. Donc c'est bien que Bruno Le Maire en parle, mais c'est bien aussi qu'on arrive à apaiser le débat et qu'on se mette au travail.
Il était temps surtout qu'il y ait un pilote, là pour le coup, dans l'avion, sans vouloir forcer le jeu de mots, parce que la grève, c'est plusieurs mois de grève avec 15 jours de vraie grève, et puis pour des clients, pas tellement l'envie de réserver sur Air France, en sachant qu'il y a des grèves encore annoncées pour septembre éventuellement. Donc quand vous voyagez de façon internationale, ou même pour les affaires, ou même pour partir en vacances, vous n'avez pas envie de prendre Air France, très sincèrement. C'est aussi le feuilleton grotesque avec Accor, qui devait...
Accor, groupe hôtelier qui voulait entrer au capital.
Qui voulait racheter la participation de l'État, dont on apprend après que finalement c'était des fantasmes ou des vues de l'esprit de la part du président d'Accor, enfin des choses assez compliquées, très très loin en tout cas d'une pertinence économique. Et puis à côté de ça, c'est un environnement très concurrentiel dans lequel certes il y a beaucoup plus de demandes pour l'aérien, dans le tourisme tout explose, mais sur lequel c'est très 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 compétitif. Et Air France se fait tailler des croupières d'un côté par le low cost, le vrai low cost, pas le demi low cost comme June.
Vous êtes d'accord que le premier enjeu, quand il va arriver, Ben Smith, son premier enjeu, c'est la paix sociale.
C'est la paix sociale. Mais pour ça, il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves.
Alors expliquez-nous pourquoi il a fait ses preuves.
Il a fait ses preuves parce qu'à Air Canada, il a fait deux choses. D'abord, il a créé une compagnie de low cost qui s'appelle Rouge, qui est aujourd'hui une compagnie à succès, qui fonctionne. Et surtout, il a fait la paix sociale en utilisant une méthode qui est toute simple et assez ancienne, mais qui est finalement nouvelle en France, qui est la médiation. Vous avez un problème à résoudre, vous mettez au point des protocoles de médiation. C'est-à-dire, chaque fois qu'une question va se poser, qu'un conflit va surgir, on va pas faire une grève, on va pas se lancer dans des pancartes ou dans des SMS vengeurs, on va se réunir autour d'une table.
Ça n'existe pas
Non, ça n'existe pas pour l'instant, la médiation. Ce qui existe, c'est la négociation, c'est le rapport de force, donc d'un côté de l'autre côté les syndicats.
Est-ce que c'est pas ce qui a été aussi mis en place, peut-être sous une autre forme, la SNCF?
C'est un peu ce qui a été mis en place sur la SNCF, qui marche un peu mieux. Oui, mais là, l'idée, ce qu'a utilisé Ben Smith et ce qui a fait son succès, d'abord, c'est sa connaissance du secteur, hein, il ne faut pas se tromper. C'est, je pense, quasiment 30 ans en tout dans le secteur, en comptant côté agence de voyage, compagnie aérienne diverses et variées. Et puis après, c'est cette capacité à la fois aller sur le low cost et à négocier avec tous les syndicats, notamment le personnel navigant. Hein, c'est ce qui a fait sa force. Et à un moment, en plus, où Air Canada était sur le point de disparaître. Air Canada était une compagnie qui ressemblait à ce qu'a pu être Swissair, Air Italia, la Sabema, c'est-à-dire les grandes compagnies nationales qui, à un moment, ont failli mettre la clé sous la porte pour de bon.
En tout cas, il y a un sujet sur lequel, probablement, il risque de se faire coincer dès le premier comité d'entreprise. Nous allons en reparler dans un instant, dans la suite des informés sur France Info. 20h20, toute l'info, Augustin Rivet.
Benjamin Smith prendra la tête d'Air France KLM d'ici à la fin septembre. Vote en conseil d'administration ce soir. L'intersyndicale réclamait un président français. Ce ne sera pas le cas. Benjamin Smith, numéro 2 de la compagnie Air Canada. Il est une chance pour Air France KLM, explique ce soir la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Diana Ross déclare prier pour le merveilleux esprit en or d'Aretha Franklin. Hommage d'une reine de la soul à une autre. Aretha Franklin a succombé à un cancer aujourd'hui à l'âge de 76 ans. Elle mérite, d'après Hillary Clinton, notre reconnaissance éternelle pour avoir ouvert nos yeux, nos oreilles et nos cœurs. Respect ou Think était sans doute ses plus grands succès. Donald Trump y est aussi allé de son tweet, saluant une super femme avec un don de Dieu fantastique, sa voix. Fin de citation. La Maison-Blanche s'intéressait également à la Turquie, la menaçant de nouvelles sanctions si Ankara ne libère pas le pasteur américain Andrew Brunson. Assigné à résidence en Turquie depuis 2 ans, il est accusé là-bas d'espionnage. Le policier qui a abattu un automobiliste sans permis à Paris mardi a été mis en examen ce soir. Il a interdiction d'exercer ses fonctions de gardien de la paix. Il disait avoir tiré dans une situation de légitime défense après une course-poursuite. Le football ce soir en Europa League avec à 20h45 Bordeaux-Mariupol, 3e tour préliminaire. C'est un match retour. Les Girondins avaient battu les Ukrainiens 3-1 à l'aller.
France Info. 20h-21h, les informés. Guillaume Caour.
Autour de la table des informés, Nicolas Castex, Anthony Bélanger, Emmanuel Pierra et Sophie Fay, avec le nouveau patron d'Air France, Ben Smith, qui a donc été nommé maintenant il y a un petit peu moins de 20 minutes. Et nous en débattons déjà dans les informés. Alors, Ben Smith, vous le disiez tout à l'heure, Emmanuel Pierra, il a négocié cet accord quand il était chez Air Canada avec le personnel. Mais là, il va découvrir une autre culture, la culture déjà syndicaliste française et la culture qui plus est du SNPL, qui est quand même unique en son genre, non ? Sophie Fay.
Oui, et la culture de l'État français aussi, qui est assez unique en son genre, parce que dans sa médiation au Canada, il avait eu un soutien formidable, qui était que l'État avait interdit la grève, et que l'État était complètement derrière lui. Donc là, il va falloir aussi que l'État
français... Ils avaient interdit la grève par la loi, je crois.
Oui, par la loi. Ils avaient légiféré pour lui donner...
Impossible chez nous.
Voilà, et après... évidemment, mais ça, c'est plutôt bien.
Oui, bien sûr.
Mais dans la médiation, il était clairement soutenu par l'État, qui ne s'en est pas mêlé après, qui a fait ça, et puis qui ensuite l'a laissé gérer les relations et qui ensuite n'était pas une force de dernier recours sur lesquelles les syndicats pouvaient s'appuyer pour faire changer le dirigeant.
Et donc la méthode qu'il a utilisée là-bas n'est pas forcément celle qu'il faudra transposable ici, exactement.
Il va apporter une nouvelle
chose. Des syndicats d'Air France, quand même, je voudrais quand même dire que ce ne sont pas les seuls syndicats de pilotes qui font grève. On a vu qu'à Ryanair en ce moment, justement tout le problème de Ryanair qui a fait qu'il y a plus de 400 vols qui ont été
supprimés. Il y a régulièrement des grêves à Lufthansa, il y en a eu la Royal Air Maroc.
En fait, grosso modo, il y a une pénurie de pilotes au niveau mondial. Donc, ils sont courtisés, ces pilotes, absolument partout dans le monde, et ils font valoir ce que font n'importe quel salarié en position de force. C'est-à-dire, si vous continuez à nous traiter comme ça, ou si vous n'améliorez pas nos conditions de travail, eh bien, on va aller dans la compagnie d'à côté. Ils nous font des ponts d'or. Donc, je comprends très bien leur position. Il y a une multiplication.
Je suis pas d'accord avec vous. C'est pas ce qu'ils disent.
Non, mais t'avais...
ils disent pas. Ils pourraient dire, si on n'a pas les meilleures conditions, on s'en va. C'est pas ce qu'ils disent.
Non.
Ils disent, si on n'a pas de meilleures conditions, on bloque tout. Oui. C'est pas pareil.
Non, mais ça, c'est pour Air France. Et... ouais. Mais c'est aussi la même chose pour Ryanair. Hein. Attendez, pour l'instant, ils sont dans une entreprise. Ils essayent d'obtenir la meilleure
conditions. S'ils sont pas contents, ils vont ailleurs.
Non, ce que j'essaie de dire, c'est que d'une façon générale, pour reprendre un paysage un peu plus global. D'une façon générale, les pilotes et aussi les personnels aériens, enfin les personnels de cabine, sont en situation de force en ce moment avec l'explosion du trafic aérien, l'explosion des low cost, l'explosion des compagnies qui ont besoin. Je prenais par exemple Air Colombia, qui est la compagnie nationale colombienne. Je lisais par hasard une brève dans la presse colombienne qui expliquait qu'ils étaient désespérés, ils manquaient de 40 pilotes. Ils en avaient à peine réussi en recruter 20 sur le continent. Ils sont en train de chercher absolument partout dans le monde. Toutes les compagnies sont là. Donc évidemment, les pilotes sont en position de force. Il n'y a aucune raison qu'ils n'en profitent pas. Je comprends ça. Maintenant, il faut aussi penser deux choses. D'une part, que les compagnies nationales peuvent disparaître. Emmanuel Pierre a rappelé tout à l'heure que Sabena, Alitalia, c'est dans un état absolument épouvantable, Swissair, etc. Et d'autres compagnies plus importantes encore. Iberia, par exemple, qui a été rachetée par British Airways. Donc les compagnies nationales peuvent disparaître. Et deuxièmement, que le business model de Air France est quand même le long courrier et le luxe. C'est-à-dire que pour l'instant, il gagne encore de l'argent sur le transatlantique et sur les longs courriers. Sauf que c'est un domaine qui vient d'entrer dans le domaine du low cost. On commence à voir des compagnies comme Norwegian, par exemple, qui proposent des allers-retours pour New York à 350 €. Donc, il faut vraiment qu'Air France fasse vite, mettre au carré son business model, parce que ça peut être très grave pour cette compagnie.
L'intersyndicale avait réclamé 6% d'augmentation générale de salaire pendant la dernière grève. Là, on a un patron qui arrive et qui va multiplier le salaire par 3 comparé à son prédécesseur. Ça fait désordre d'après le représentant force ouvrière Karim Taibi.
On a un conflit sur les salaires où on a entendu depuis 5 mois que c'était pas possible d'augmenter les salariés d'Air France. Et là, pour le président directeur général, on arrive à casser la tirelire, à tripler son salaire et on a une négociation annuelle obligatoire qui est toujours là, qui est en suspens, en attente de la nomination de ce nouveau patron. Et donc, on ne comprend pas ce triplement de salaire. Maintenant, on lui met des objectifs à ce nouveau dirigeant. Il les atteint, l'entreprise prospère. On n'a aucun souci, mais pour le moment, ce monsieur n'a rien démontré.
Nicolas Castex, vous voulez réagir à cela ?
Non, mais encore une fois, ça montre le climat social tendu. C'est très bien, les syndicats jouent leur rôle. Maintenant, j'aimerais bien comparer le salaire de Ben Smith avec celui des grands patrons des compagnies aériennes mondiales. Encore une fois, Air France est dans le top 10 des grandes compagnies aériennes en termes de trafic. Je pense qu'on a simplement normalisé. Donc on est en train de dire aussi, pour attirer des talents, on est obligé de faire un certain nombre de concessions et donc d'avoir des salaires normaux. On parlait tout à l'heure du PSG, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, pour attirer des bons joueurs, il faut des salaires normaux. D'une part. D'autre part, ça dit aussi à quel point M. Janaillac était peut-être mal payé.
L'ancien patron, ouais.
Était peut-être mal payé. Donc ça pose cette question-là, la gouvernance et le salaire des dirigeants de cette compagnie.
Emmanuel Pierre,
je voudrais dire que c'est le seul point sur lequel je suis d'accord avec les syndicats. Hein. L'augmentation de salaire ne me semblait pas justifiée, ne me semble pas une bonne opportunité politique. Le salaire de Ben Smith à venir, c'est plus 20% par rapport à ce qui touchait Air Canada, qui n'était pas une compagnie qui payait mal. Et je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur geste pour utiliser. On lui demande pas d'apporter les mêmes méthodes essentielles qu'il a utilisées au Canada.
Sensible,
mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de commencer par ça. En revanche, tout le reste, effectivement, est à repousser. Le combat sur la nationalité, sur l'origine, sur le fait de ne pas être européen, etc., c'est grotesque. Nous sommes d'accord. Mais le seul mauvais point, c'est ça. Il va démarrer avec une menace de grève pour septembre et l'annonce de son salaire qui va tourner en boucle et justifier auprès du personnel navigant et des pilotes, surtout des pilotes, de bonnes raisons à nouveau de se mettre en grève.
Je rappelle que M. Janaillac avait perdu la partie justement sur ça, une augmentation de 30% de son salaire au moment où il refusait refusé une augmentation de 6% du salaire des, donc effectivement des personnels navigants et des
là,
pilotes.
Là, c'est doublement du salaire de Janaillac.
Et d'autre part, juste, M. Janaillac avait fait une grossière erreur qui était d'avoir convoqué ce référendum juste après avoir annoncé son propre augmentation. C'était très bête.
Attention, parce que pour l'instant, on ne le connaît pas, le salaire. Hein. C'est-à-dire que ça, ce sont des informations qui ont fuité. Qui méritent encore d'être confirmées officiellement.
Non, c'est un potentiel salaire qui est annoncé. C'est une grille possible. En tout cas, c'est la marge de manœuvre que se laisse l'entreprise pour payer son dirigeant, son président. Donc, on va penser qu'il n'est pas totalement, il ne vient pas uniquement pour le plaisir de se coltiner des syndicats en grève et qu'il y vient aussi par un intérêt personnel.
Allez, on conclut ce débat avec vous.
Il prend quand même un gros risque en venant à la tête d'Air France. Dans ce climat-là, on ne sait pas combien de temps il va rester. Et par ailleurs, il ne sera pas complètement libre puisqu'il aura toujours une présidente. Au-dessus de lui, il est directeur général, il n'est pas PDG. Anne-Marie Couder restera présidente. Et en 2019, en fonction de l'évolution du conseil d'administration et de la fin des mandats de certains administrateurs, ça pourra aussi changer. Donc, il prend des garanties.
En tout cas, ça sera dans l'actualité dès le 27 août prochain, puisque l'intersyndicale se réunira ce jour-là. Et puis, de son côté, le SNPL menace de 15 jours de grève à la rentrée si les négociations sur les salaires ne reprennent pas rapidement. Voilà donc pour l'ambiance chez Air France, dont c'est quand même une magnifique entreprise dont on souhaite qu'elle sorte rapidement de ce climat-là. Parce que c'est une entreprise dont on est fier hein, en France.
Oui, bien sûr, malgré tout,
elle fait causer. Allez, dans un instant, la suite de nos débats, nous allons reparler de ces viaducs, le viaduc de Gênes. Pour entretenir nos infrastructures en France, il faudrait par exemple relancer l'écotaxe. C'est une des pistes. A tout de suite sur France Info. La météo, Sébastien Léas.
Une perturbation atlantique s'infiltre sur le pays cette nuit, circulant d'ouest en est. À l'avant du front pluvieux, des orages peuvent se déclencher entre le nord de la Seine, le centre-val de Loire et le Limousin. Demain matin, cette perturbation donnera un temps gris et humide du piémont pyrénéen au massif central jusqu'en Bourgogne, à la Champagne-Ardenne et à l'ouest lorrain. Les pluies seront localisées, mais parfois ponctuées de coups de tonnerre. Sur le reste du pays, la matinée sera plus lumineuse, même si le ciel va devenir nuageux sur les régions de l'est. L'après-midi sera bien ensoleillé sur le sud-ouest et des côtes de la Manche au Poitou jusqu'aux Ardennes et à l'ouest de la Bourgogne. Plus à l'est, les nuages seront prédominants. Des averses et des orages pourront se déclencher sur les Pyrénées, les Alpes, le Massif central et le nord-est. Les plages de la Côte d'Azur et de la Corse seront à l'écart et garderont des éclaircies. Les températures vont perdre quelques degrés avec 20 degrés pour Brest et au Havre, 24 degrés à Paris, Lille, Dijon et Metz, 26 degrés à Lyon et 5, 4, 2, 1 et 0. Les températures vont perdre quelques degrés avec 20 degrés à Brest et au Havre, 24 degrés à Paris, Lille, Dijon et Metz, 25 degrés pour Lyon et Bordeaux, mais 29 degrés à Mulhouse, Grenoble et à Nice et jusqu'à 32 degrés à Marseille.
Et 5, 4, 3, 2, 1, 0, il est 20h30, vous êtes sur France Info.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Toute l'info, Augustin, arrivé.
Le producteur Quincy Jones se dit persuadé qu'elle restera la reine à tout jamais. The Queen of Soul, Aretha Franklin est morte, Respect, Think ou bien le magnifique I Never Loved a Man the Way I Love You. Autant de morceaux qu'on retrouvera chez ce disquaire parisien visité par Alexandre Berthaud.
Des vinyles partout, des posters des rois de la soul, funk, house au mur, chez Bettino, 11e arrondissement de Paris.
Oh merde.
Le patron vient d'apprendre le décès d'Aretha Franklin.
J'ai pleuré, pas devant le micro, mais c'est toute la musique soul, rhythm and blues des années 60. Mais ça fait beaucoup de peine, je savais qu'elle était malade, mais bon. J'ai encore quelques disques d'elle, notamment l'album d'Aretha Franklin, Soul 69.
Si on devait en écouter un maintenant, lequel vous mettriez?
Bah, on peut réécouter... Ça c'est un morceau de soul jazz quoi, voilà. Voilà, ça s'arrête à Franklin quoi.
À l'arrière, quelques clients, Ben, un casque sur les oreilles.
C'est des frissons quoi, clairement. Je pense que c'est un feeling, c'est un talent, je pense que c'est ça ouais, qui fait qu'elle est plus grande que certaines.
Devant la boutique, Sarah passe, elle entend Aretha Franklin, elle se souvient.
À la maison, quand les parents faisaient le ménage le dimanche, il y avait Aretha Franklin en fond, du coup c'est une nostalgie, quoi, c'est une histoire.
Au moment de partir, Bettino, le patron, confesse en guise d'hommage, les clients n'ont pas fini d'entendre du Franklin.
Voilà pour ce reportage d'Alexandre Berthaud. Aretha Franklin avait 76 ans. Benjamin Smith serait une chance pour Air France KLM. Déclaration ce soir de la ministre des Transports Elisabeth Borne, quelques minutes après la désignation du Canadien à la tête de la compagnie aérienne. L'intersyndicale s'y opposait, préférant un PDG de nationalité française. Benjamin Smith est Canadien. Numéro 2 d'Air Canada, il prendra ses nouvelles fonctions d'ici la fin septembre. Un accident sur l'autoroute A4, un camion de céréales qui a percuté le car d'une colonie de vacances dans l'Aisne. 5 blessés, dont 2 en urgence absolue. C'était à hauteur de Villers-Agron-Aiguizy. La colonie se rendait dans la Meuse. Le tribunal de grande instance de Toulouse rejette la plainte d'un homme de 27 ans. En fauteuil roulant, il attaquait la SNCF pour discrimination. Lui qui se rend souvent à Paris pour le travail, il estime que les trains ne sont pas adaptés aux personnes en fauteuil. La compagnie ferroviaire reconnaît ce problème de mobilité dans les rames, mais elle a fait valoir qu'elle avait jusqu'en 2024 pour se mettre en conformité. Le gouvernement bulgare annonce la rénovation de tous les ponts autoroutiers du pays, tous les ponts routiers. Il y en aurait 211 considérés comme étant en mauvais état. Les chantiers sont tous lancés simultanément, 2 jours après l'effondrement d'un viaduc à Gênes. 38 morts en Italie. L'action de la société Atlantia, qui gérait le tronçon autoroutier, a perdu un quart de sa valeur aujourd'hui en bourse à Milan. Guillaume Cahour, je vous redonne la parole pour la suite des informes.
Merci Augustin, à tout à l'heure.
20h, 21h. Les informer.
Guillaume Cahour.
Sur France Info, les informer jusqu'à 21h, comme tous les jours. Alors aujourd'hui, il y a Sophie Fay qui est chef du service éco de l'Obs, Emmanuel Pierrat, avocat et président du Pen Club, Anthony Bélanger, mais journaliste oui. Et chroniqueur à France Inter, mais oui, et Nicolas Castex, consultant chez Everybody Knows. Alors le viaduc de Gênes s'est effondré cette semaine. Pour entretenir les infrastructures françaises, il y a cette question qui ressurgit dans la politique. Faut-il relancer l'éco-taxe ? Après le drame de Gênes, en France, on s'interroge sur l'état de nos infrastructures. 7% de nos ponts sont à risque selon un audit commandé par le gouvernement. Et alors ce qui est étonnant, c'est que à gauche comme à droite, des voix s'élèvent pour relancer l'écotaxe. Il y a Dominique Bussereau des Républicains et Julien Bayou sur France Info ce matin. Lui représente Europe Écologie des Verts.
C'est pas aux usagers, aux particuliers de payer, c'est aux pollueurs. Et donc les pollueurs, c'est les poids lourds. C'est eux qui abîment les chaussées. Et donc c'est pour ça qu'on revendique une taxe poids lourd. C'est pour justement faire passer la charge de l'entretien, du prix, etc. Parce qu'évidemment, si vous passez sur les routes, vous l'abîmez, mais c'est pas la même chose quand vous avez une Clio et quand vous avez un 35
donc
tonnes.
Donc une écotaxe.
Une écotaxe.
Eh ben oui. Eh ben une écotaxe. Bah après tout, il y a eu tellement de mouvements, de manifs, de blocages. Eh ben on la ressort.
Alors, il y a une autre idée qui ressort, vous savez, dans la révision constitutionnelle que prépare Emmanuel Macron, il y a la possibilité d'expérimenter différentes choses au niveau régional, mais aussi ensuite, jusqu'à maintenant, quand on expérimentait des dispositifs administratifs au niveau d'une région, il fallait ensuite les étendre nationalement. Mais maintenant, après la révision constitutionnelle, il y aurait cette possibilité de maintenir le dispositif régional. Et donc, vous avez
donc,
des régions,
comme
la région Nouvelle-Aquitaine, qui réfléchit à la possibilité d'expérimenter une écotaxe pour sa région.
D'accord.
Et de la maintenir localement si ça fonctionne et si ça marche.
Je fais de l'humour, mais finalement, c'est quelque part c'est le bon sens et ça existe dans d'autres pays.
Oui, ça existe dans d'autres pays. Ensuite, ça fait sens parce qu'il y a des régions qui sont plus ou moins concernées. Il y a des régions, on sait très bien qu'il y a une espèce de cabotage des poids lourds internationaux qui doivent de toute façon passer par la France pour aller vers des pays importants quand même, qui pourraient aller d'abord vers l'Italie, vers l'Espagne, vers le Portugal ou de l'Italie, de l'Espagne vers le nord de l'Europe. Donc la France est en fait, grosso modo, une espèce de carrefour routier et qui est des régions qui sont particulièrement affectées, notamment des routes secondaires. Et donc, c'est pas totalement stupide que des régions décident de... C'est même pas totalement stupide, c'est même très intelligent que des régions décident de s'armer pour pouvoir, ne serait-ce
mais
que répondre...
relancer ce débat, franchement, est-ce que ça a vraiment du sens quand on voit comme ça s'est terminé avec le gouvernement Hérault qui a avalé sa couleur?
Vous savez qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier les raisons pour lesquelles on avait détesté le quinquennat de François Hollande. Eh bien, voilà, cette histoire de l'éco-taxe nous rappelle à quel point à la fois ce débat avait été éternel, que ça avait duré des mois, il y avait des espèces de manifestations de bonnets rouges qui se sont trouvées en fait être des manifestations catégorielles, simplement parce que certains transporteurs bretons ne voulaient pas avoir à payer cette taxe supplémentaire, espèce de jacquerie fiscale. Comment ça s'est terminé par une semi-décision, par un État qui avait dû payer 800 millions d'euros, puis de l'autre côté, une taxe qui avait été remise en catimini. Comment ces débats nous avaient épuisés et comment, au fond, on manquait d'une décision un peu... carré, quoi.
Nicolas Castex.
C'est un problème de à plusieurs milliards, hein, le financement des infrastructures en France. Je me tourne vers Sophie Fay qui connaît les chiffres mieux que moi, sans doute. Et donc c'est un problème insoluble parce que l'État n'a pas les moyens, en vérité. Donc c'est super de se poser la question de l'écotaxe ou du financement. Moi, je voulais juste suggérer qu'il y ait un peu de privé aussi qui puisse, en tout cas, lancer le débat, un peu de privé dans le financement. On a vu ça dans les autoroutes et c'était pas très bien encadré ces dernières années. Mais il y a de l'argent privé qui est prêt à s'investir dans les infrastructures en France. Pourquoi ? Parce que la France est un grand pays de circulation, mais aussi un grand pays en progression en termes de population.
Mais pour que le privé s'y intéresse, il faut qu'il gagne quelque chose, donc il faut des péages quelque part.
Oui, ils ont gagné beaucoup d'argent sur les autoroutes, justement un peu trop à notre sens et au sens de beaucoup de citoyens. À mon sens. Ils auraient pu être contrôlés, mais l'argent privé, au-delà de l'écotaxe qui reviendrait à taxer les transports routiers, mais l'argent privé en général est prêt à s'investir dans les infrastructures, en tout cas en France. Donc c'est aussi une solution à considérer de manière sérieuse.
Mais le problème, oui et non. Parce que, grosso modo, ce qui se passe en Italie, là, c'est que les populistes au pouvoir en Italie essayent de se rattraper, de se refaire un peu de leur opposition habituelle. Enfin, l'opposition du mouvement 5 étoiles, par exemple, là, aux grands travaux, en se disant, ben, on va retirer les concessions automobiles, les concessions autoroutières aux entreprises privées. En l'occurrence, à l'entreprise privée qui gérait la A10. On a bien vu qu'en France, c'est une des choses les plus impopulaires qui ont été faites ces 15 dernières années. C'est justement de confier à des entreprises privées en catimini. C'était le gouvernement de Villepin qui, quasiment 3 jours avant de finir son mandat, avait comme ça, hop, signé des concessions rapidement faites. Et c'est encore aujourd'hui extrêmement impopulaire, très sensible. Et donc, mais en France, mais aussi en Italie, et puis aussi en Espagne, où il y a d'énormes conglomérats qui gèrent ces autoroutes à travers toute l'Europe. Et donc, on voit bien que le sujet peut être très facilement récupéré par des populistes. Et qu'au fond, c'est un peu le rôle de l'État, quand même.
Cela dit, aujourd'hui, on a un réseau autoroutier qui est particulièrement bien entretenu et qui a bénéficié d'investissements, alors que quand on regarde le réseau des routes nationales, les ponts dont vous parliez, les 7% de ponts, ce sont les ponts des routes nationales, ont un déficit d'investissement. L'investissement dans ces routes a baissé de 25% entre 2008 et 2015. Et c'est justement l'investissement pour l'entretien de ces routes qui devait être augmenté et abondé par l'écotaxe.
Et on a de quoi quand même un peu s'inquiéter pour l'avenir, parce qu'il y a ce chiffre qui sonne un peu comme une bombe à retardement, c'est l'entretien des ouvrages d'art, donc notamment des ponts, représente aujourd'hui 0,2% de leur valeur à neuf. Or, d'après les experts internationaux, il faudrait mettre 1,5%. Donc ça veut dire 7 fois moins. Ouais.
Oui, mais de ce point de vue-là, la France n'est peut-être pas le pays le plus mal loti. Hein. Les États-Unis ou l'Allemagne ont un déficit d'investissement public qui dépasse de loin le nôtre.
Qui est même assez délirant d'ailleurs.
Pour revenir à notre écotaxe, vous pensez que le moment est bien choisi du coup ?
Le moment est choisi.
Parce que là, il y a tellement d'émotions, même chez nous en France, autour de ce drame de Gênes.
C'est surtout que le terme n'est pas le bon, pardon. L'écotaxe, qu'est-ce que c'est ? Ça sert, c'est le principe du pollueur-payeur. Le problème n'est pas un problème de pollution. Et le problème n'est pas d'ailleurs qu'un problème de poids lourd. Hein. C'est un problème d'entretien, de rénovation, d'infrastructure, qui me semble avoir très peu de rapport avec la couche d'ozone ou avec le pourcentage de CO2. Donc utiliser le mot écotaxe, quand on sait à quel point il a été incendiaire il y a quelques années, avec les bonnets rouges, la Bretagne, Jean-Marc Ayrault, me semble inapproprié, et sur la forme et sur le fond.
Merci beaucoup. On poursuit dans quelques instants avec l'un de nos débats sur les CRS. Vous êtes peut-être en train de nous écouter en ce moment en vacances. Les CRS ne seront plus sur les plages l'an prochain. Faut-il prolonger leur mission ? A tout de suite dans les informés. Il est 20h40. Toute l'info, Augustin Arrivé.
Benjamin Smith réagit par communiqué à sa désignation à la tête d'Air France KLM. L'actuel numéro 2 d'Air Canada dit souhaiter gagner la confiance et le respect des équipes. La ministre des Transports Elisabeth Borne salue son expérience, son sens du dialogue et sa capacité de transformation. L'intersyndicale réclamait un PDG de nationalité française. La disparition d'Aretha Franklin, elle avait aidé à définir la mentalité des États-Unis selon Barack Obama. La chanteuse avait participé à sa cérémonie d'investiture. Respect, think I say a little prayer. Elle était surnommée la reine de la soul, 76 ans. Maria Carey rend hommage sur Twitter à celle qui était son inspiration, son mentor et son amie. La Maison Blanche menace la Turquie d'alourdir encore les sanctions économiques américaines. Washington réclame la libération d'un pasteur américain arrêté en 2016 en Turquie. Il est depuis assigné à résidence sur des accusations d'espionnage. De précédentes sanctions la semaine dernière avaient fait s'effondrer le cours de la livre turque face au dollar. La Coupe Davis ne s'étalera plus sur une année, mais elle réunira toutes les équipes sur une semaine. Décision controversée de la Fédération internationale de tennis avec des manches raccourcies. 2 victoires suffiront pour accéder au tour suivant contre 3 aujourd'hui. Un match d'Europa League ce soir à Bordeaux. Les Girondins reçoivent le club ukrainien du FC Mariupol. 3e tour préliminaire retour. Les Bordelais avaient gagné l'aller 3-1. Coup d'envoi à 20h45.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Guillaume Cahour.
Les informés sur France Info avec Emmanuel Pierrat, Anthony Bélanger, Sophie Fay et Nicolas Castex. Finalement, on est un peu dans la même problématique que celle que l'on vient d'évoquer ensemble sur le financement d'un service public. C'est une tradition depuis 1958, hein, depuis 60 ans. Les CRS assurent notre sécurité sur les plages en été. Alors, ils étaient 1200 il y a 30 ans, 720 il y a 15 ans, 300 cette année. Et il est probable, selon un syndicat, que ce soit le dernier été pour concentrer leur mission sur de la pure sécurité. Est-ce que c'est encore leur place, les plages, au CRS ?
Je ne savais même pas qu'on était surveillé par les CRS.
Vous n'allez pas à la plage ?
Je ne voyais pas très bien le rapport entre leur travail quotidien, qui me semble-t-il être un travail de maintien de l'ordre, un peu musclé, et le fait qu'ils puissent se retrouver en déambuler avec leur FAMAS sur les...
On peut donner peut-être quelques chiffres, justement. J'ai des chiffres. Il y a 14 000 CRS en France, il y a donc 300 sur les plages, donc ça veut dire 2%. Donc en fait, c'est non significatif. Mais je pense qu'on pourra débattre au-delà de ces chiffres du sujet symbolique, c'est-à-dire le désengagement de l'État d'un certain nombre de ses missions qui seraient traditionnelles. Celle-ci est assez récente cependant, puisqu'elle date que simplement de 58.
Oui, c'est ça.
Bon. En même temps, les CRS ont été créés en 58, c'est-à-dire.
Oui, alors effectivement.
Ah bon, c'est vrai ?
Bah oui.
Ah
bon.
Puis, ouais, non, mais du coup, sur la plage en 58.
C'est un anachronisme. Hein. En 58, ils sont arrivés parce qu'il y avait un déficit de sauveteurs en Bretagne. Donc il y a eu un moment particulier. Et puis cette espèce d'habitude est restée. Je pense aussi parce que, très sincèrement, un CRS préfère être à la plage à surveiller des gens en train de nager que de se coquiner des manifestants avec un bouclier et un casque. Ça, c'est la réalité. C'est vraiment un anachronisme. C'est absolument grotesque. Ceux qui doivent payer ou financer la surveillance des plages sont évidemment les communes touristiques au bord de la mer, qui ne sont pas les plus à plaindre, hein, qui devraient prendre ça en charge, qui font face à une difficulté. En plus, nous avons d'autres difficultés. Hein. La Cour des comptes a pointé l'absurdité économique. Aujourd'hui, les communes financent le logement et la nourriture des CRS qu'ils ont envoyés sur la plage, mais il faut bien que quelqu'un les paye, hein. C'est sur leur temps de travail. Temps de travail donc, qui est pris en charge par l'État, salaire qui est pris en charge par l'État, et de l'autre côté, on nous dit qu'il manque des policiers, qu'il manque des gens pour la sécurité, qu'il manque des gens pour la surveillance. Il y a un petit argument qui flottait ces derniers jours qui consistait à dire qu'accessoirement, ils pouvaient servir pour la lutte contre le terrorisme.
Alors, ils sont armés depuis
2 ans. Oui, parce que les histoires de policiers et d'armes, c'est des choses qui m'intéressent, comme avocat, évidemment, la sécurité. Ils sont armés depuis 2 ans. Je ne suis pas persuadé que la menace terroriste ce soit sur les plages de façon si agressive et si première. Et puis, alors, j'ai entendu aussi des gens dire, ça permet de surveiller éventuellement les délinquants et d'arrêter quelqu'un en train de voler. Enfin, Sophie, je ne pense pas que ce soit le problème numéro un. Voilà.
Alors, ce n'est pas un sujet léger du tout, puisqu'il y a eu une recrudescence des noyades et des accidents récemment. Il y en a eu autant en 2 mois là, qu'en 6 mois.
C'est énorme. Il y a eu 1758 noyades depuis le début de l'été. C'est une hausse de 104% comparé à
avec les CRS.
Ça a un vrai rapport. Non pas que c'est pas parce qu'il n'y a pas de CRS sur les plages qui se noient, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de maîtres nageurs, y compris pour les communes estivales et y compris dans les piscines municipales. Et qu'on se rend compte maintenant qu'il y a seulement un enfant sur deux en 6e qui s'est nagé.
Alors ça, oui, c'est le cas notamment dans le 9-3, dans le 93, qui est un des départements les plus jeunes de France. C'est Madame Buffet qui m'a raconté ça, qu'un enfant sur deux ne savait pas nager, ce qui est proprement ahurissant. Oui.
Et donc, du coup, pour vous, ont leur place
du coup, les sur CRS, les plages. Non, les CRS n'ont pas vraiment leur place sur les plages. D'ailleurs, Gérard Collomb a dit que ce qui était important surtout, c'est que quand ils étaient sur les plages, c'est que ça donnait une bonne image, une image sympathique, et que donc c'était positif pour leur image. Donc on n'a pas besoin de maîtres nageurs.
Certes, c'est un anachronisme, mais à côté de cela, on a un système qui fonctionnait plutôt bien, qui assure la sécurité malgré tout sur les plages des baigneurs. On sait qu'aujourd'hui les communes ont de grandes difficultés à boucler leur budget. Donc est-ce que c'est le moment de leur rajouter cette charge-là ?
Enfin 300.
Non, pas les communes au bord de mer, pardon, pas les communes qui accueillent des plagistes à longueur de journée. Une commune rurale, oui, à l'intérieur des terres, je veux bien l'entendre, mais certainement pas celle, pardon, qui bénéficie des retombées économiques importantes du tourisme sur le littoral. La France va bien sur le plan touristique. Il a fait très chaud, d'où le fait que les gens se sont baignés, d'où le fait, pardon, qu'il y a eu beaucoup plus de morts. Hein. Ouais. C'est aussi bête que ça et aussi
là
idiot.
Aussi,
voilà, et les CNRS n'ont rien à faire sur les
questions de financement. Question de financement là aussi.
La Cour des comptes ayant fustigé cela, il y a
de l'argent pour financer ce genre de choses. Effectivement, par contre, il y a une question de vocation. Qui est de l'argent, j'en suis certain. Communes, commerçants, toute une série d'intervenants économiques liés à l'économie balnéaire qui est florissante en France et qui est en croissance. J'en suis certain. Après, c'est la question de qui a envie de faire ce métier et est-ce qu'on peut convertir des jeunes.
Après, c'était il y a 30 ans.
Michel Anderson, voilà, sur la plage.
Non, non, mais c'est vrai.
Donc, profitons de cette antenne pour demander aux jeunes de se convertir en grand nombre comme maître nageur. C'est un métier sans doute très sympa.
Cela dit,
Pamela Anderson.
Là, vous touchez un vrai souci qui est un souci des saisonniers, visiblement, y compris dans les zones balnéaires. Visiblement, il y a un vrai problème, une vraie pénurie de saisonniers. C'est-à-dire que la France est prête à accueillir 100 millions de personnes. C'est ce qu'on nous prédit pour 2024, 100 millions de visiteurs. Bon, je raconte tout, je dis tout, il faut quand même expliquer que les 100 millions, on aime bien ajouter comme ça les nuitées et les 100 millions de personnes qui viennent nous voir. En fait, il y a énormément de ces gens qui, en fait, ne font que traverser la France pour aller en Espagne et que l'argent, ils le dépensent vraiment en Espagne. D'ailleurs, c'est très simple. L'Espagne, les États-Unis et l'Espagne sont les deux premières puissances touristiques mondiales en termes d'argent dépensé, ce qui compte vraiment sur place. La France arrive en troisième position avec l'Italie. Mais bon, bref, si on veut accueillir tant de monde, il faut aussi effectivement se mettre au carré, c'est-à-dire qu'on puisse avoir, on puisse embaucher des saisonniers qui visiblement et donc a probablement beaucoup amélioré les conditions d'accueil, les conditions de paiement, les conditions de salaire, les conditions de ces saisonniers qui sinon ne viendront pas. Il n'y a pas de raison.
Alors moi je voudrais prolonger un point que vous avez souligné tout à l'heure, Emmanuel Pierra, dans votre dossier complet sur les CRS sur les plages. Il est très bon, il est tout potassé. C'est sur l'aspect risque terroriste, parce que c'est vrai que une plage, on sait aujourd'hui, c'est un lieu touristique, c'est un lieu qui peut être exposé. Est-ce que justement, il n'est pas justifié dans ces conditions-là, au moins sur les plages les plus fréquentées, qu'il y ait cette présence des CRS?
Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit les CRS. D'abord, la lutte contre le terrorisme, elle passe plus sûrement par le renseignement que par la surveillance des foules. On le sait. Voilà. Peut-être qu'il faudrait alors mettre en place une police spécifique pour surveiller la plage de façon générale. Je ne suis pas persuadé que le CRS, qui a quand même été formé à autre chose, qui est formé à des mouvements de foule, qui est formé aux manifestations, qui est formé, etc., soit le plus approprié pour aller lutter contre le terrorisme et tirer éventuellement ou arrêter du haut de sa chaise perché sur la plage un éventuel djihadiste qui se lancerait à l'assaut des plagistes. Moi, ça me paraît totalement délirant. Le cadre ne s'est pas présenté, heureusement, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution.
On voit bien
encore une fois, ça me semble des arguments éculés.
Même dans le cas de Nice, ce qui a fallu, ce qui a manqué, ce n'est pas le nombre de personnes, nombre de personnel policier, CRS ou pas, qui étaient présents ce jour-là. C'était vraiment des infrastructures de type plots de béton qui auraient empêché le camion de se.
Oui, là, on parle de la promenade des Anglais,
bien entendu.
En tout cas, voilà une idée qui fait l'unanimité contre elle, ces CRS sur les plages, en tout cas autour de cette table. Et dans un an, vraisemblablement, il n'y en aura plus pour surveiller les baignades. Les communes vont devoir trouver d'autres solutions. Dans un instant, la suite avec notre dernier débat désinformé de France Info. 20h50, toute l'info, Augustin arrivé.
Benjamin Smith, c'est une chance pour Air France KLM. Le soutien ce soir de la ministre des Transports Elisabeth Borne au dirigeant canadien numéro 2 d'Air Canada. Il prendra ses fonctions d'ici la fin septembre. L'intersyndicale de la compagnie française aurait voulu un directeur général français. Benjamin Smith déclare vouloir gagner la confiance et le respect des équipes d'Air France KLM. Diana Ross dit prier ce soir pour le merveilleux esprit en or d'Aretha Franklin. Hommage d'une reine de la soul à une autre. Aretha Franklin a succombé à un cancer aujourd'hui à l'âge de 76 ans. Elle mérite, d'après Hillary Clinton, notre reconnaissance éternelle pour avoir ouvert nos yeux, nos oreilles et nos cœurs. Respect to Think était sans doute ses plus grands succès. La Maison-Blanche menace à nouveau la Turquie avec de nouvelles sanctions possibles si Ankara ne libère pas le pasteur américain Andrew Brunson, assigné à résidence en Turquie depuis 2 ans. Il est accusé là-bas d'espionnage. Le policier français qui a abattu un automobiliste sans permis à Paris mardi a été mis en examen ce soir. Il a interdiction d'exercer ses fonction de gardien de la paix. Il disait avoir tiré dans une situation de légitime défense après une course-poursuite. Et puis l'entraîneur du Stade Lavallois, suspendu de ses fonctions par la Fédération française de football. Sanction immédiate à titre conservatoire. Il avait menacé de mort un journaliste de France Bleu Mayenne vendredi dernier après une défaite de son équipe en championnat, journaliste qui a porté plainte.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Guillaume Caour.
La table des informés est composée de Nicolas Castex, Anthony Bélanger, Emmanuel Pierrat et Sophie Fay. Je voudrais que nous évoquions cette actualité est tombée il y a quelques minutes, il y a un peu plus d'une heure maintenant. C'est un policier qui vient d'être mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. À propos d'une interpellation qui pose plusieurs questions et je l'espère, entre vous débat, je vais récapituler les faits. Mardi soir, à Paris, un conducteur a refusé de s'arrêter à un contrôle routier. L'un des trois policiers qui se trouvait à pied a réquisitionné un scooter et demandé au conducteur de se lancer dans une course-poursuite à travers Paris. Quand la voiture s'est retrouvée coincée dans une rue, le policier s'est approché de la voiture. Le conducteur aurait alors reculé, percuté le scooter. Le policier a tiré. Le conducteur est mort quelques minutes après et le policier a été placé en garde à vue et donc mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. D'abord, Emmanuel Pierrat, en tant qu'avocat, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ? Est-ce que c'est une mise en examen qui vous choque ou pas ?
Non, elle n'est pas choquante, pardon. Il y a des circonstances quand même inacceptables, sous réserve de la présomption d'innocence. Mmh. Mais il y a deux choses. Il y a d'abord la réquisition du scooter. C'est pas uniquement réquisitionner un véhicule, hein. Il a demandé à quelqu'un, il a ordonné à un citoyen, conducteur de ce scooter, de se lancer dans la course-poursuite en montant derrière. Totalement illégal. Ça n'existe pas.
C'est illégal ?
C'est illégal. Vous pouvez réquisitionner un véhicule, vous pouvez demander aux gens de ne pas bouger. Lorsqu'il y a une scène de violence.
C'est arrivé au mois de mai à un autre journaliste de la maison.
Oui, je sais, j'ai lu le tweet de Jean-François Deniaud, ouais, effectivement. Mais c'est totalement illégal. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de se transformer en policier, de se mettre à faire une course-poursuite pour attraper quelqu'un. Évidemment, vous pouvez refuser. C'est totalement illégal. C'est totalement délirant, pardon, d'en arriver là. Mmh. La deuxième chose, évidemment, c'est avoir sorti son arme, avoir tiré et, a fortiori, avoir tué cette personne. Ça rappelle très étrangement ce qui s'est passé début juillet à Nantes. Un policier qui a raconté dans une première version qu'une voiture avait, au moment d'un barrage policier, refusé d'obtempérer, qu'elle avait menacé ou tenté de rouler sur eux. Et donc, il a tiré et tué. Il y a eu 3 jours d'émeute, vous vous en souvenez. On en a même parlé, nous, aux informés à France Info. Avant, pardon, que le policier n'admette, ensuite mis en garde à vue, qu'il avait totalement menti, affabulé, qu'il n'était pas en état de légitime défense et qu'il avait, dit-il, commis un tir accidentel. Là, il y a beaucoup de choses qui semblent... Les cas dans lesquels on peut tirer sur quelqu'un sont extrêmement codifiés, prévus par le code pénal, c'est extrêmement précis, il y a des règles d'engagement, vous pouvez le faire que dans des circonstances de danger, de mort immédiate. Là, on a quelqu'un qui se lance dans une course-poursuite, qui a vu trop de films de cow-boys, pardon, et qui vraiment est une sorte de hors-la-loi. Est-ce que quelqu'un autour de cette table
pense que ce policier a bien fait son taf, son boulot, son travail?
Clairement personne. On peut pas penser ça, mais on peut
constater que ça n'est pas un cas isolé. Alors, il y a très peu de cas qui se terminent aussi dramatiquement, mais quand même, l'IGPN, dans son bilan 2017, l'inspection générale de la police, a montré qu'il y avait une recrudescence des tirs automatique et pas une petite recrudescence, je crois que c'est plus de 50%. Une hausse de plus de 50%.
C'est énorme.
Et quand on regarde à quoi sont dus ces tirs, une grande partie sont dus au fait que quand il y a un contrôle routier, les automobilistes partent, fuient. Et pourquoi ils fuient, pourquoi ils ne t'opèrent pas au contrôle? C'est parce qu'aujourd'hui, on a 600 000 personnes en France qui roulent sans permis et 700 000 personnes qui roulent sans assurance. Et qui donc sont forcément très inquiets et qui souvent font ça parce qu'ils ont besoin de rouler pour des questions professionnelles.
Mais du coup, ça crée une tension entre les deux. Comment gérer un refus d'obtempérer, parce que...
Non, alors, il y a un autre problème, excuse-moi.
On est à Paris, il y a des caméras de surveillance, il y a une préfecture de police, on n'est pas au milieu de nulle part. Il a été reproché toute la journée à ce policier de ne pas avoir suivi les règles qui existent de procédure, il faut alerter, ça manque pas de voitures de police. Si vous circulez en ce moment dans Paris, il y en a partout, très sincèrement. Voilà, et donc ce policier s'est vraiment pris pour un héros, et le résultat, c'est un petit problème en plus qui est que
c'est effectivement, pendant toute cette période d'attentat, on a, pendant 2 ans, à raison, d'abord mobilisé beaucoup les policiers, et deuxièmement, on les a beaucoup écoutés. Donc on a libéralisé un peu la possibilité d'usage de leurs armes, ils peuvent l'amener chez eux, ils peuvent l'utiliser, pas l'utiliser, mais enfin l'avoir sur eux, y compris hors service. Je ne suis pas en train de dire que ça entraîne une augmentation de la... Mais enfin, presque. Que ça entraîne une augmentation de leur usage. Enfin, on sait bien que c'est la disponibilité des armes qui finit par entraîner leur usage. Je vais vous donner un petit exemple très précis. On a pendant des années eu un taux de suicide des jeunes par arme à feu en Suisse extrêmement important. Simplement parce que les jeunes Suisses ont leurs fusils mitrailleurs sous leur lit parce qu'ils sont réservistes de l'armée suisse et que donc, en fait, de la... de l'idée de mourir ou de se suicider à le faire avec son arme à feu, c'est très facile. C'est je prends mon arme, je tire avec. Donc, il y a la disponibilité des armes est aussi un problème aux États-Unis où les policiers clairement tirent avant même de demander ni les papiers d'identité ou en courant, tout simplement parce qu'ils supposent que la personne en face d'eux a des armes. Donc, je suis simplement en train de dire qu'il y a des pays dans lesquels, notamment en Europe, en Grande-Bretagne, les armes ne sont pas à disposition des policiers. Les policiers n'ont pas d'armes sur eux, même s'il y a des policiers maintenant armés dans les rues de Londres, et que c'est un vrai problème, me semble-t-il, cette mise à disposition plus généreuse des armes à feu, du côté des policiers, mais aussi, du coup, du côté de ceux qui pourraient commettre des délits, sachant que les policiers sont armés.
Nicolas Castex, bon, vous
en avez
entendu
en tant que citoyen un petit peu optimiste, malgré tout, même si je partage tout ce qu'on s'est dit sur le fait que c'est un peu scandaleux, je constate qu'on est dans un état de droit et que l'IGPN fait son travail, et la garde à vue, en l'occurrence, qui a été prononcée, je ne sais pas si c'est le bon terme, est plutôt de bonne aloi. Donc, ils considèrent peut-être, y compris dans le contexte qui a été décrit, que c'est un sujet sérieux et qu'il faut sans tarder prendre le sujet à bras le corps. Donc on est dans un état de droit, c'est une bonne chose.
Je vais me faire l'avocat du diable, pardon, hein, mais ce policier a malgré tout aussi, lui, pris des risques en tant que gardien de la paix. Il a été exposé à un risque avec vraisemblablement cet homme qui a reculé, percutant le scooter sur lequel se trouvait quelqu'un derrière.
Non, on n'est pas d'accord. Non, ça c'est sa version, pardon. Là-dessus. On va avoir le témoignage du conducteur, du scooter, puisqu'il l'a embarqué avec lui. Il y a déjà des voisins qui ont donné des informations et filmé plus ou moins la fin de la scène. Il faut quand même rappeler, pour le prolongement de ce que disait Sophie Fay tout à l'heure, qu'il y a eu 17 morts, 17 personnes ont été tuées par la police dans des circonstances compliquées, voire au-delà de problématiques l'année dernière. Il y a eu l'affaire Adama Traoré, il y a l'affaire Théo. On ne peut pas dire qu'on soit véritablement rassuré par la police française.
Juste pour conclure, depuis, mais le policier à ce moment-là ne savait pas, on a appris que le conducteur conduisait sans permis, qu'il faisait déjà l'objet d'une procédure pour refus d'obtempérer, exposant autrui à la mort ou l'infirmité.
Ce qui ne justifie pas de courir après.
C'est bien pour ça que je dis que le policier ne le savait pas, tout à fait. Sophie Fay, la une de l'Obs.
Et si le monde n'allait pas si mal, c'est une enquête sur ces nouveaux penseurs optimistes qui expliquent qu'il y a beaucoup moins de famine, avec une interview de Bill Gates.
Merci beaucoup à tous les quatre, Sophie Fay, Emmanuel Pierrin, Tony Bélanger, Nicolas Castex. La météo tout de suite.